élections présidentielles et législatives 2023. L'émission « Qui est ton candidat ?» signe son retour. Suivez-nous tous les jours à 20h à partir du 19 novembre 2023 sur UFM 94.7. Vous êtes candidat. Vous désirez vous faire connaître autrement de vos électeurs avec un vrai projet pour le Congo et sa jeunesse. Contactez-nous au plus 243 90 76 24 698.
C'est 20 décembre 2023, les Congolais iront aux urnes pour voter et élire un président de la République, des députés nationaux, provinciaux, des conseillers municipaux. Eh bien, il est important que ces Congolais sachent un peu comment ça va se dérouler. Et comme c'est l'enjeu du pays qui compte, il est aussi primordial pour nous d'avoir des yeux externes pour nous aider à savoir comment ça va se dérouler, se rassurer que ces élections vont bien se dérouler. Ce soir, nous recevons pour vous, fidèles auditeurs de Qui est ton candidat, Monsieur Nicolas Teidas, je crois que j'ai pas massacré son nom, directeur de la mission internationale d'observation électorale Centre Carter. Avec lui, on va discuter un tout petit peu du rôle du Centre Carter ici en République démocratique du Congo. Pourquoi ils sont là? Que vont-ils réellement faire?
Élections présidentielles et législatives 2023. L'émission « Qui est ton candidat ?» signe son retour. Suivez-nous tous les jours à 20h à partir du 19 novembre 2023 sur UFM 94.7. Vous êtes candidat. Vous désirez vous faire connaître autrement de vos électeurs avec un vrai projet pour le Congo et sa jeunesse? Contactez-nous au plus 243 90 76 24 698.
Bienvenue dans Qui est ton candidat? Monsieur Nicolas, bonsoir.
Bonsoir.
Vous allez bien?
Très bien.
J'ai pas massacré votre nom?
Tout s'est bien passé.
J'en suis heureuse. En tout cas, merci d'être avec nous dans cette émission Qui est ton candidat. Et surtout, bienvenue à Kinshasa. Vous y êtes depuis combien de mois déjà?
Ça fait exactement 3 mois, jour pour jour.
Jour pour jour, ça se passe bien?
Jusque-là, tout va bien.
Très bien. Je crois que vous êtes devenu quinois déjà. Hein. 3 mois, on devient déjà quinois.
C'est ça. Et on apprend à endurer les embouteillages.
Comme je l'ai dit tout à l'heure aux auditeurs, internautes et ceux qui nous suivent au niveau de la radio, vous êtes donc le directeur de la mission internationale d'observation électorale. Alors c'est quoi cette mission? C'est quoi Centre Carter pour ceux qui ne savent pas?
Alors le Centre Carter, c'est une fondation statutairement qui a été créée en 1982 par l'ancien président américain Jimmy Carter. Mmh. Après sa retraite, il a décidé d'avoir une vie active, d'une vie très active, et notamment avec cette fondation qui travaille sur toutes les questions de résolution de conflits, d'observation électorale, sur la question des droits de l'homme, sur les industries extractives, justice climatique, etc., etc. Donc tous ces domaines-là qui tiennent à cœur à la Fondation sont ceux sur lesquels la Fondation travaille. Et pour le Congo, c'est vrai qu'il y a un programme qui est assez important.
D'accord.
Ancien, qui existe depuis 2006. Donc ce sont des bureaux permanents qui sont dirigés par un directeur pays permanent qui s'appelle, d'accord, Romain Ravet, et qui s'occupe d'une partie des programmes que j'ai cités tout à l'heure. Et en plus de ce bureau permanent, il y a cette mission que vous avez citée, donc la mission internationale d'observation des élections, que je dirige, et qui est déployée donc, dans le cadre de ce processus électoral. Ce qui veut dire que quand moi je vais partir, quand la mission sera finie, le bureau permanent, bien sûr, va rester. Et les programmes vont continuer. Si nous sommes ici présents en RDC, c'est parce que nous avons été invités par les autorités congolaises, plus, d'accord, précisément par le ministère des Affaires étrangères, à observer ce processus électoral.
Alors si je comprends bien, permettez-moi de vous arrêter un tout petit peu, la mission, si vous êtes à Kinshasa, si vous êtes en République démocratique du Congo, c'est absolument, ou ça doit être absolument sur invitation.
Oui, bien sûr. Nous ne sommes pas chez nous, ici. Uh-huh. Nous sommes dans ce qu'on appelle, dans notre jargon, un pays hôte.
D'accord.
Et donc, pour être dans un pays hôte, il faut être invité par son hôte.
Alors, ça veut dire que vous êtes en RDC, puisque les élections, voilà, ça a commencé depuis... On est au quatrième cycle, si je ne me trompe pas. Donc, dès le premier cycle, on va dire 2006, vous étiez déjà installé.
Absolument. Il y a eu à chaque fois, pour 2006, 2011, 2018 et pour maintenant, une mission du Centre Carter dans ce cadre.
Alors, comment vous opérez concrètement quand il y a organisation des élections en amont? Qu'est-ce que vous faites et jusqu'au jour des élections? Comment le Centre Carter opère-t-il?
Alors là, je vais parler surtout de ce processus-là. Souvent, les faiblesses que peuvent avoir les missions d'observation, c'est d'arriver à un moment où les choses sont déjà très
abouties, avancées,
très avancées. Et nous, de notre côté, on a eu une personne qui est toujours là, qui est présente depuis 2 ans, et son but, c'est d'effectuer ce suivi de la situation politique, électorale, les préparatifs, etc. Cette personne était là à toutes les étapes qui ont précédé. Mmh. Et lorsque la mission est arrivée avec moi-même, j'ai intégré cette personne dans la mission et on a pu bénéficier de toute son expérience, non pas qui nous a été rapportée par d'autres personnes, mais qu'il a observé lui-même.
Il
fait partie du Centre Carter.
D'accord.
Tout à fait. Simplement, il est là à plus long terme que moi et
d'accord,
il continue à être présent.
Voilà. D'accord. Très bien. Alors, est-ce que vous pensez qu'il est important? Pourquoi on se dit qu'il faudrait qu'il y ait un organe externe qui vienne observer forcément les élections? Est-ce que c'est que pour des pays africains ou bien on peut observer aussi les élections ou vous le faites aussi ailleurs, en fait?
C'est effectivement une question très pertinente. Le but de toute mission d'observation, c'est de s'assurer que le cadre juridique du pays où on est déployé est en conformité avec les standards régionaux, internationaux, les bonnes pratiques, etc. Et ça, okay, cette remarque, elle est valable pour tout le monde.
D'accord.
Que ce soit pour mon pays d'origine, la France, que ce soit pour le pays de la Fondation, les États-Unis, que ce soit pour le Congo, que ce soit pour n'importe quel autre pays, la méthodologie est la même et les missions d'observation existent dans tous les pays du monde où les pays hôtes invitent des observateurs.
Alors, comment vous êtes accueilli dans ces pays hôtes-là de manière générale et de manière particulière ici en République démocratique du Congo? Est-ce que la mission est bien reçue?
Dès lors qu'il y a une invitation, on s'attend à être bien reçu.
Bon, je parle plus
principe,
au niveau de la population qui va avoir des yeux externes, des gens, et surtout, on va se le dire, on est en Afrique, on va avoir des blancs qui sont venus, voilà, en train de surveiller nos élections. On a un peu le sentiment que voilà, on est démocratique, pourquoi qu'il faut. Comment vous vivez tout cela?
Alors, effectivement, il y a un travail pour nous, de notre part, de pédagogie. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui, hein, et je vous remercie d'ailleurs au passage de m'avoir invité, d'expliquer effectivement pourquoi nous sommes là. Et peut-être de vous préciser aussi une spécificité des missions d'observation du Centre Carter, c'est que nous ne sommes pas que des Blancs. En l'occurrence, la mission est composée de 24 observateurs et de 7 membres de l'équipe cadre. Dans toutes ces personnes-là, il y a 70% des gens qui viennent du continent africain.
D'accord,
en fait.
Ok.
Donc moi-même, je suis minoritaire, en fait, si vous voulez.
Voilà. C'est fait exprès ou c'est pareil partout?
C'est un choix vraiment de la fondation d'avoir cet esprit large. Et, voilà, si on avait pu aussi avoir des observateurs originaires du continent asiatique, on aurait pu le faire. Là, c'est plutôt des questions linguistiques qui sont...
Exactement.
Voilà, ça peut être plus difficile. Mais vraiment, notre but, voilà, on a ces... Je ne sais plus exactement le nombre de pays africains qui sont représentés dans la mission, mais on a aussi l'Europe, on a aussi l'Amérique du Nord. Voilà.
Donc on va dire en gros, vous êtes quand même... on comprend votre travail à ce niveau-là où le travail de la mission n'est pas encore... On n'est pas facilement compris au niveau de la population.
On l'explique, mais comme vous avez rappelé, c'est le quatrième cycle électoral. C'est aussi le quatrième cycle où il y a des observateurs.
D'accord.
Donc, ce n'est pas la première fois non plus pour les gens de découvrir les observateurs sur le terrain, d'en entendre parler dans la presse. C'est pas quelque chose de nouveau, mais on a toujours ce devoir de pédagogie.
Alors, votre rôle commence où et s'arrête où? Vous êtes là juste pour observer, vous donner vos conclusions de comment ça se passait et vous n'intervenez en rien d'autre? Qu'est-ce que vous faites et qu'est-ce que vous ne faites pas?
Alors, effectivement, et c'est vraiment la pierre angulaire de notre travail, on a signé en tant que centre Carter une déclaration de principe pour l'observation internationale. Ça a été signé sous l'égide de l'ONU le 27 septembre 2005. Et dans les membres signataires, il y a le centre Carter et il y a plein d'autres structures qui sont originaires du continent africain, du continent européen, du continent américain, sud-américain, asiatique, etc. Et on obéit tous à la même, au même principe et au même code de conduite. Voilà. Et notamment, un des principes du code de conduite, c'est la non-interférence dans le processus électoral. Nous sommes là pour observer et non pas pour monitorer, comme je l'entends souvent, les élections. On n'est pas là pour diriger, on n'est pas là pour donner des instructions. On est là pour observer. On peut donner des suggestions. À la fin du processus, on peut donner des recommandations pour améliorer le processus. D'accord. Mais notre rôle s'arrête là.
Je rappelle à tous les auditeurs et internautes que nous sommes dans Qui est ton candidat et nous recevons pour vous, en tout cas ce soir, Monsieur Nicolas Teidas, qui est directeur de la mission internationale d'observation électorale pour le compte du Centre Carter. Avec lui, on essaie un peu de discuter un tout petit peu pour faire comprendre à la population quel est le rôle de cette mission d'observation ou pour ces élections, en tout cas, qui arrivent très bientôt, c'est dans quelques heures. J'ai envie de dire dans quelques heures, pas parler de jours parce que ça avance très très vite. Alors, Monsieur Nicolas, on parlait de cycle électoral. On a dit qu'on en est au quatrième depuis 2006 jusqu'à aujourd'hui, 2023. Quelle lecture vous pouvez vous faire puisque vous avez assisté à cela en tant que mission d'observation? Quelle lecture vous faites de ce quatre différents cycles? Est-ce qu'il y a des changements? Est-ce qu'il y a des choses qu'on a mieux fait avant, qu'on pouvait reprendre, mais qu'on n'a pas repris? Comment, quelle lecture, en bref, vous faites?
Alors, comme je vous l'ai dit, moi, mon rôle, je suis observateur. Donc, je n'ai pas à faire des interprétations à ce stade sur des comparaisons entre les cycles électoraux précédents, de savoir si l'un a été meilleur que l'autre. Simplement le constat que le Congo est un pays immense, un pays continent comme on le dit, avec des enjeux logistiques qui sont importants. Et en parallèle avec ce quatrième cycle, donc c'est la quatrième fois qu'on organise des élections dans ce pays.
D'accord. C'est vrai que, bon, voilà, je ne sais pas si cette question, la réponse est à titre personnel ou vous parlerez qu'au nom, comme on dit, je parlais qu'en présence de mon avocat, vous parlerez qu'au nom du Centre Carter et pas au nom de Nicolas Teidas. C'est vrai, on est des électeurs, moi-même j'en suis une, et on est en train d'observer ce qui se passe, on voit aussi les différents candidats en train de donner des discours, faire battre leur campagne, mais il y a quand même une moitié de la population, je ne sais pas si c'est une moitié de la population, qui doute encore, et il y a des candidats qui le font douter aussi que ces élections pourront avoir lieu. Vous qui avez un œil d'observateur, puisque je pense que votre mission ne commence pas que au mois où on fait la campagne, où on bat campagne, c'est vraiment plusieurs mois en avant. Au stade où on en est, est-ce que vous pensez, à votre avis, que c'est réalisable ces scrutins le 20 décembre en République démocratique du Congo?
Alors, je suis désolé de vous faire la même réponse que tout à l'heure. Ce n'est pas non plus dans mon rôle de rentrer dans des spéculations.
D'accord. Hein,
ça, c'est une question qui doit être traitée par les Congolais, d'accord, que ce soit par le politique ou que ce soit par les acteurs techniques qui doivent faire cette évaluation-là et qui doivent apporter cette réponse-là. Nous, on continue à observer le processus tel qu'il continue à se dérouler.
Donc, en clair, vous faites qu'observer, vous ne nous direz pas ce que vous voyez à ce niveau-là de votre observation ou bien pour donner un programme, un rapport d'observation, il faut absolument que votre mission arrive au bout.
Alors, nous avons communiqué un rapport intérimaire.
D'accord.
Que je pourrais partager avec vous, sauf si vous l'avez déjà eu.
Oui, moi oui.
Voilà, mais bien sûr, vous êtes libre d'en parler. D'accord. C'est fait pour ça.
D'accord.
Si vous avez l'occasion, au cours d'une autre émission, de le mentionner et d'en parler, c'est vraiment fait pour ça. Et ce rapport intérimaire Et là, pour faire un état d'un certain nombre de constatations et surtout de suggestions sur des choses qui peuvent être encore améliorées avant le scrutin du 20 décembre.
D'accord.
Et ensuite, on publie une déclaration préliminaire 2 jours après le scrutin, au cours de laquelle, là, on va vraiment faire un constat ramassé de ce que l'on a observé, de tout ce qui s'est passé avant le 20 décembre,
d'accord,
de tout ce qui va se passer le jour du scrutin, donc l'état de nos observations le jour J. Donc ça, ce sera 2 jours après le scrutin. Et ensuite, on aura un rapport final qui sera communiqué aux parties prenantes, mmh, et qui le sera à la fin du processus électoral. Donc ça peut prendre un peu de temps.
D'accord. Voilà. Alors, de votre avis d'observateur, puisque vous avez eu à participer à plusieurs cycles électoraux ici en République démocratique du Congo, on parle d'un nombre très élevé des candidats au niveau national, des députations nationales, provinciales. Est-ce que pour vous, si c'est un nombre correct qui est tous ces candidats-là, ou bien c'est exagéré? À votre humble avis, je ne sais pas si on va revenir sur la même réponse. Hein.
On risque. Je l'ai dit tout à l'heure, la République démocratique du Congo, je pense, est le troisième pays le plus grand du continent africain, si je ne me trompe pas,
je crois.
En superficie, un nombre d'habitants qui est conséquent. Et donc potentiellement, effectivement, un nombre de candidates et de candidats qui peut être important. Maintenant, cette question du nombre de candidats, c'est pas à moi de juger s'ils sont trop nombreux ou s'ils ne sont pas assez nombreux, mais plutôt c'est quelque chose qui sera reflété dans notre rapport, d'évaluer je crois que le président Kadima a parlé de 100 000 candidats, si on regroupe tous les niveaux d'élection.
D'accord.
Voilà, ce sera à nous de donner un avis si on trouve que ces 100 000 candidats, c'est trop, c'est conforme aux pratiques, aux standards internationaux ou pas.
Voilà. Alors, c'est vrai, on a déjà soulevé la question qu'il y a certains candidats qui concourent aussi pour la présidentielle, mais pour autre chose, qui estiment qu'il n'est pas faisable, il n'est pas réalisable. Il faudrait repousser les élections. Par exemple, il y en a une en particulier qui a parlé de 3 ans de transition pour revenir plus tard parce qu'apparemment, on ne serait pas prêt. Est-ce qu'une idée de transition, à l'allure où vont les choses, est une bonne ou mauvaise idée? Votre sourire me donne déjà la réponse.
Oui, mais vous comprenez que c'est logique que je ne sois pas en mesure de répondre à cette question-là.
D'accord. Alors, très bien. Est-ce que les Congolais, pour vous, sont suffisamment informés des enjeux, de comment ça va se passer, les scrutins, c'est comment? Comment vous pensez que, dans ce que vous avez observé, on a suffisamment informé les Congolais de comment voter?
Pareil, c'est une question que l'on pourra discuter au moment de la déclaration préliminaire. Mmh. Je rappelle d'ailleurs que cette déclaration, elle sera bien évidemment publique, elle sera médiatisée. Nous vous inviterons, tout comme nous inviterons tous les acteurs médiatiques, et vous serez invités à poser des questions à ce moment-là. Sans aucun problème.
Donc le Centre Carter ne peut que observer et nous donner leur avis à la fin des élections pour nous dire comment ça s'est passé, ce qu'il faut peut-être améliorer pour le scrutin prochain. Mais est-ce que vous avez aussi le rôle, c'est vrai, vous intervenez pas, mais les acteurs qui interviennent dans l'organisation des élections, ça vous arrive de donner quand même de conseils? Parce que quand on observe, à l'Africain en tout cas, nous, quand on observe quelque chose, on a tendance à donner de conseils, pas à imposer, mais à donner les conseils avant que les choses n'arrivent.
Bien sûr. Bien sûr, et ça, c'est ce qui est contenu d'ailleurs dans notre rapport intérimaire. Hein. On donne des conseils, on donne des suggestions, ça peut être des recommandations aussi. Mais il ne faut pas oublier aussi qu'on n'est pas tout seul en tant que mission internationale. Il y a d'autres missions internationales. Alors,
d'accord,
on est les seuls en tant que mission internationale de long terme.
D'accord.
Mais de court terme, il y a d'autres missions qui sont annoncées. Il y a l'Union africaine, il y a la SADC qui ont été annoncées dans les médias. Et il ne faut pas oublier non plus les missions d'observation nationales.
D'accord.
Ça, c'est extrêmement important. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de plateformes qui sont là, qui ont un nombre d'observateurs parfois assez conséquent. Et ça, c'est un bon gage pour assurer une plus large couverture que la simple couverture d'une mission internationale, par exemple.
Très bien. Le 20 décembre, vous serez sur terrain, vous serez dans différents bureaux de vote, la RDC est grande. Comment vous allez vous déployer? Comment ça va se passer? Vous serez partout? Vous allez choisir un coin? Comment la mission va opérer le 20 décembre?
Alors, c'est précisément ce que je viens de vous dire juste avant sur le rôle des missions d'observation nationale, qui sont dans des proportions beaucoup plus importantes.
D'accord.
Que nous, et donc il y a cette complémentarité. Mais pour revenir à votre question, donc nous-mêmes, on a 24 observateurs qui
D'accord.
sont déjà déployés sur le terrain depuis un mois et demi, qui sont déployés un petit peu partout. Souvent en fonction de contraintes logistiques, hein, il faut qu'on puisse atteindre les zones que l'on veut atteindre. Et le jour du scrutin, ces observateurs, en vertu de leur mandat, vont se déplacer de bureau de vote en bureau de vote pour observer ce qu'il se passe. Voilà. Et ils sont accrédités, bien sûr.
Hein,
ils ont cette accréditation de la commission électorale. Ils sont tous accrédités, donc ils auront tous l'autorisation de rentrer dans le bureau de vote, de poser des questions, mais en aucun cas d'interférer dans le processus électoral. Simplement,
quoi qu'il se passe, quoi que vous voyez, vous n'intervenez en rien, vous faites que regarder.
Absolument.
Observer.
Absolument.
Alors, est-ce qu'on peut savoir à ce niveau, c'est vrai, 24 personnes, est-ce que vous avez déjà choisi, c'est possible de savoir Kinshasa, on sera un peu à Lubumbashi, on sera, est-ce qu'il y a des villes comme ça que vous avez déjà vous pointé?
Oui, oui, c'est ça, Goma, Bukavu, Lubumbashi, Kalemi, Kananga, Ujimai, Kolwezi, Matadi.
Équateur chez vous?
Équateur, bien sûr. À Bandaka, Matadi et deux équipes à Kinshasa.
Très bien. Alors, ce sera un travail qui va se faire. On parle de les élections, c'est de 8h à 17h, si je ne me trompe pas. 6h à 17h? Je ne sais pas à quelle heure ça va commencer, mais vous, le dernier membre de l'observation ne partira que quand il y aura le dernier électeur qui aura voté. Ça se passe comme ça ou vous restez aussi après?
Alors, ça se passe dans les deux cas, en fait. Hein. C'est-à-dire que les observateurs seront là toute la journée du scrutin jusqu'à la fermeture du bureau de vote. Mais également, ils restent jusqua plusieurs semaines après les élections.
D'accord.
Puisque ce qui est très important pour nous, c'est d'observer la phase post-électorale et potentiellement des contentieux. Puisque ça arrive partout, c'est normal, mais c'est important pour nous d'observer ces contentieux-là.
Très bien. Alors, avec les quelques minutes qui nous restent, c'était une session pédagogique, on devrait savoir c'est quoi exactement le rôle d'une mission d'observation, parce qu'on aurait peut-être cru, non, ils vont intervenir à un certain niveau, ils vont dire dans les bureaux de vote, non, faites pas ci, ici, il y a beaucoup de gens. Maintenant, on sait au moins que vous serez là que pour observer, voir comment ça se passe et à la fin pouvoir donner des recommandations aussi par rapport à ce que vous avez observé. Alors, en gros, s'il faudrait faire un résumé du travail d'une mission d'observation électorale au niveau international qui est invitée dans un pays, ça serait quoi qu'il faut qu'on retienne du Centre Carter?
Il faut qu'on retienne que, un, on est invité par les autorités. Deux, on est accrédité par la commission électorale. Trois, on observe un code de conduite avec des points qui sont très précis, dont la non-interférence dans le processus.
Voilà. Très bien. J'espère que tous les auditeurs et tous les Congolais, on va essayer, en tout cas, dans une autre émission, essayer de mettre en lumière, si même pas dans celui-ci, on pourra intégrer le rapport. Dans cette émission, on pourra faire un résumé sur ce rapport et l'annexer à cette émission pour pouvoir communiquer à tous les Congolais qu'est-ce qui fait exactement le Centre Carter en particulier. Mais je pense que c'est à peu près ce que fait toutes les missions internationales et même ceux nationales vont un peu plus loin que vous qui êtes des invités ou bien vous faites le même travail?
Elles vont un peu plus loin dans le sens où elles ont plus d'observateurs.
D'accord.
Ça va plus loin que nous en termes de chiffres. Mais après,
en termes de rôle,
les méthodologies restent les mêmes.
D'accord, très bien.
Tout à fait.
Merci beaucoup à M. Nicolas Ateidas. Je rappelle qu'il est directeur de la mission internationale d'observation électorale pour le compte de Centre Carter. Il était dans Qui est ton candidat aujourd'hui pour nous parler un peu de comment ses yeux externes, c'est comme ça que je les appelle, les yeux externes viennent pour nous aider à observer un peu comment ça se passe les élections et pourquoi pas nous donner des recommandations, des conseils pour faire un peu mieux hein, la prochaine fois. Et voilà, c'était un plaisir pour nous de vous avoir. J'espère que le message est passé.
Merci en tout cas beaucoup de nous avoir, de m'avoir invité et bonne chance pour la suite.
Voilà, Qui est ton candidat s'arrête ici pour aujourd'hui. C'est vrai que cette émission vous présente vos candidats, qui vous choisissez. Ils viennent ici pour vous dire pourquoi ils choisissent de faire ce travail, comment ils veulent le faire. Est-ce qu'ils vous convainc? Ça, ça dépendra de vous puisqu'on aura la réponse le 20 décembre quand nous irons tous voter. Mais il était important de parler aussi, de discuter un tout petit peu avec le Centre Carter de manière à ce qu'on puisse... démêler le vrai du faux, ce que les missions ont à faire et ce qu'ils n'ont pas à faire. J'espère que cette émission vous aura renseigné. Merci à tous de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous demain à 20h. Élections présidentielles et législatives 2023. L'émission « Qui est ton candidat ?» signe son retour. Suivez-nous tous les jours à 20h à partir du 19 novembre 2023 sur UFM 94.7. Vous êtes candidat. Vous désirez vous faire connaître autrement de vos électeurs avec un vrai projet pour le Congo et sa jeunesse? Contactez-nous au +243 90 76 24 698.